Bonsoir à tous. Notre rencontre de ce soir portera le caractère spécial d'un double titre. Le siège de Samarie, et qui pourrait aussi s'appeler la nécessité, le besoin impérieux d'un réveil. C'est de réveil que nous allons parler spécialement aujourd'hui. Et pour en parler, j'ouvre la Bible dans le deuxième livre des Rois, un épisode de la vie du prophète Élie en rapport avec la capitale de la Samarie, la capitale d'Israël, Samarie, et je lis au verset 24, Ben-Hadad, roi de Syrie, donc le Syrien, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 sicles d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon 5 sicles d'argent. Nous avons là de la monnaie des mesures de cette époque que nous ne connaissons plus aujourd'hui et dont je ne traduirai pas la valeur. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi moi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu ?» Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne-moi ton fils !» « Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit « Donne ton fils et nous le mangerons », mais elle a caché son fils. » Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit « Que Dieu me punisse, me traite dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. » Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sicle et deux mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? » Et Élisée dit, « Tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi ? « Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hessiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent les objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a plus personne, on n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés et des tentes comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous faire savoir ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit, « Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants, et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, et en voyons voir ce qui se passe. » On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, « Allez et voyez. » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici, toute la route était pleine de vêtements, d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut 1 mesure de fleurs de farine pour 1 sicle et 2 mesures d'orge pour 1 sicle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On aura 2 mesures d'orge pour 1 sicle, 1 mesure de fleurs de farine pour 1 sicle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. » Et l'officier avait répondu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? » Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. La nécessité d'un réveil. Dans la parole de Dieu, ou plutôt Dieu dans sa parole, a donné des principes, des préceptes valables en tout temps. Lorsqu'il parlait à Moïse, il lui a dit, en résumé, « Si vous obéissez, je vous bénirai. Si vous recherchez ma face, je vous multiplierai mes bénédictions. Si vous vous détournez de moi, je me détournerai de vous, et je vous livrerai entre les mains de vos ennemis. » Ce que Dieu dit à Moïse devait se vérifier exact pendant toute l'histoire d'Israël, et ces principes restent de saison pour son Église, qui est maintenant le témoignage de Dieu sur la terre. Parlant à l'assemblée d'Éphèse dans Apocalypse 2, le Seigneur dit, « Repens-toi et fais les premières œuvres, autrement je viendrai à toi et j'ôterai ta lampe de son lieu à moins que tu ne te repentes. » À l'église de Pergame, il dit, « Repens-toi donc, autrement je viendrai à toi promptement et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. » À celle de Thyatire, il dit, « Je ferai mourir de mort tes enfants, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. » À l'assemblée de Sardes, il dit, « Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur. » À celle de Philadelphie, « Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et à Laodicée, « Parce que tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien, je vais te vomir de ma bouche. » Le résumé de tout ceci, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. C'était vrai pour Samarie, la capitale d'Israël, qui était acculée à la ruine à cause de ses péchés. Ils se détournaient de Dieu et Dieu allait se détourner d'eux. La confusion la plus extrême régnait à Samarie, comme elle règne aujourd'hui dans certains secteurs de l'Église de Jésus-Christ, pour ne pas dire dans l'Église tout entière. Seul un réveil, un retour à Dieu, pouvait rétablir une situation fortement compromise. Israël avait dominé les nations d'alentour. Dieu avait été avec eux depuis leur sortie d'Égypte et leur influence se faisait sentir jusqu'au bout du monde civilisé, surtout sous les règnes de Salomon et de David. Mais à cause de leur péché, la situation s'était renversée. C'était eux maintenant qui devaient subir la loi de leurs adversaires. À quoi peut-on reconnaître que le peuple de Dieu a besoin d'un réveil? Lorsque l'Église cesse d'influencer le monde, mais que le monde influence l'Église, il est alors de la plus grande urgence de se repentir individuellement, collectivement, et de revenir à Dieu. Je traite de ce sujet capital ce soir, après mûre réflexion, à la demande de certains membres de l'Assemblée, et parce que je suis persuadé, comme bon nombre présents ici, que l'Église n'influence plus le monde, mais qu'elle est influencée par lui. Frères et sœurs, nous sommes à la croisée des chemins. De deux choses l'une, ou nous vivrons un réveil spirituel, ou le Seigneur, comme il le fit pour Laodicée, nous vomira de sa bouche. Je veux que vous voyez le tragique de la situation à Samarie, situation qui a un parallèle avec celle d'aujourd'hui. Premièrement, nous avons vu en bref Samarie, assiégée par le monde, comme l'est aussi l'Église. Voyons maintenant, en deuxième point, la famine qui régnait à Samarie, comme elle règne aussi dans l'Église. Vous allez peut-être me dire, comment pouvez-vous parler de famine spirituelle alors que nous sommes une de ces fractions du protestantisme qui garde la Bible, qui est le dépôt de la vérité? Semaine après semaine, les messages que nous entendons sont basés sur la parole de Dieu. Nous buvons quotidiennement à ce que l'apôtre Paul appelle le lait spirituel et pur du Saint-Livre. Peu d'églises peuvent nous surclasser quant à la solidité de l'enseignement. Frères et sœurs, sachez que l'abondance ou la famine ne tiennent pas seulement à la quantité de nourriture que l'on absorbe, mais au pouvoir d'assimilation. Le prophète Michée, dans son chapitre 6, avait dit à Israël, « Tu mangeras, et tu ne seras pas rassasié, et ton ventre restera vide. » Nous pouvons être gavés jusqu'à plus faim de connaissances bibliques, mais à quoi bon si nous ne les assimilons pas? On peut mourir de faim avec l'estomac plein. On est alors, comme le dit Jacques dans son chapitre 1, comme un homme qui se regarde dans un miroir et qui s'en va et oublie aussitôt comment il était. Là où la parole de Dieu n'est plus assimilée, je dis bien assimilée, elle devient comme certaines lois de notre pays. Elles existent, mais elles ne sont pas suivies de ce qu'on appelle un décret d'application. On voit aujourd'hui des délinquants conduits menottés au poste de police et sortir libres dans l'heure qui suit, et cela aux grandes dames des policiers qui se demandent à quoi peut bien servir la loi dont ils sont les garants si on la viole impunément. Il en est de même avec la parole de Dieu, là où elle ne fait plus autorité. À quoi peut servir l'enseignement de Jésus sur ce point ? Je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Si ce commandement fait place à la distance, à la froideur, ou à des clans qui se targuent d'être spirituels, cela devient comme notre belle devise, liberté, égalité, fraternité, qui est bien en vue sur tous les bâtiments publics, mais qui est piétinée ouvertement en de trop nombreuses occasions. C'était le cas de la belle assemblée d'Éphèse, où tout était orthodoxe, où l'ordre régnait, et où le commandement d'amour du Seigneur était connu, mais à qui il doit faire le reproche? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il connaissait le mot amour, mais il l'avait abandonné. Trop souvent, les messages ne sont plus assimilés, ils sont catalogués. Bon, moins bon, médiocre, nul. Dieu ne nous a pas demandé de les cataloguer, mais de les assimiler. Lorsque nous entendons un bon message d'évangélisation, nous nous écrions « Ah, je ne comprends pas comment les gens ne se convertissent pas après un message pareil !» Mais nous, nous oublions de nous demander si nous assimilons les messages d'exhortation qui nous sont adressés. Nous avons besoin d'un réveil. Ne ressemblons-nous pas aux contemporains d'Ézéchiel, desquels l'Éternel devait dire « Voici, tu es pour eux un chanteur agréable, possédant une belle voix, et comme quelqu'un qui joue bien. Ils entendent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. » Cela se trouve dans Ézéchiel 33. Le même Ézéchiel eut un jour une vision. Il vit une vallée pleine d'ossements secs. Il les vit, c'est une vision, je précise, il les vit s'assembler l'un à l'autre jusqu'à former une structure osseuse complète. Puis des nerfs, de la chair, vinrent les étoffer jusqu'à ce que les corps soient complètement formés. Mais, est-il précisé, il n'y avait pas encore la vie. Il leur fallait le souffle de Dieu. Il leur fallait un réveil. Quelque bien structurées que soient nos églises et nos assemblées, elles sont court souffle, elles manquent de souffle. Nous avons besoin d'un réveil. Ah, de l'amour, certes, on en parle encore, mais parfois on n'ose plus dire de quel genre d'amour il s'agit, comme en circulation il lui arrive de prendre des sens interdits. Troisièmement, au verset 26 de notre texte, on voit le roi passer sur la muraille. Des femmes viennent dire au roi que, pressées par la terrible famine, elles avaient mangé le fruit de leurs entrailles. Ils se mangeaient entre eux. Quand vous voyez des membres d'une congrégation s'entre-déchirer, vous pouvez dire que cette église a besoin d'un réveil. Que disait l'apôtre Paul aux Galates au chapitre 5 ? Si vous vous mordez, et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez consumés les uns par les autres. L'ennemi était là en face, c'est lui qu'il devait combattre, mais leur péché les avait laissés tellement sans force que la seule capacité qu'il leur restait, c'était de se manger l'un l'autre. Un esprit de réveil mettrait fin à cela, et nous pourrions dire avec le général Booth, le fondateur de l'armée du salut, il disait ceci, « Je suis tellement occupé à combattre les ennemis du Seigneur que je n'ai pas le temps de me disputer avec ses amis. » Quatrièmement, au verset 30, « Le roi, il écrit, déchira ses vêtements, alors que la Bible dit, déchirez vos cœurs, et non vos vêtements. » La Bible dit encore en 2 Corinthiens 7 que la tristesse selon Dieu, je dis bien selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Mais la tristesse du monde, celle du monde, produit la mort. Cette tristesse-là, celle du monde, conduit à faire du spectacle comme déchirer ses vêtements publiquement. Dieu ne lui accorde aucune valeur. La tristesse, selon Dieu, qui produit la repentance, elle conduit à se déchirer le cœur dans un repentir sincère. Ce dont le peuple de Dieu a le plus besoin, c'est d'être convaincu de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de repentance. Dans le message ou les messages aux sept églises, on trouve 6 fois l'expression « Repens-toi, repens-toi, repens-toi ». Cela pour nous prouver que la repentance sied aussi bien aux chrétiens qu'à l'inconverti. Et quand le roi entendit le terrible rapport de ces femmes, il s'écria avec colère « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée reste sur lui aujourd'hui. » Il mettait la faute non pas sur lui-même, mais sur les autres. En quelque sorte, il fait son mea culpa sur la poitrine des autres. Il n'y avait pas de jugement de soi. Bien sûr qu'Élisée était le gêneur. Il tenait dans leurs oreilles des vérités qu'ils ne voulaient pas entendre. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, « Si nous nous jugions nous-mêmes, je répète, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Dans l'assemblée de Corinthe, un homme vivait une relation coupable avec la femme de son père. Il refusait de se juger lui-même. Et l'apôtre Paul, ayant eu connaissance de la chose et revêtu de son autorité apostolique, enjoignit cette église de tenir un conseil au nom du Seigneur pour livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du jugement, au jour du Seigneur. Voici donc un homme qui vivait dans le péché et une assemblée qui, sachant ces choses, se croisait les bras et se pavanait d'aise au milieu de ses dons spirituels. Et Paul dit, « Très bien, livrez-le à Satan et que celui-ci le frappe. » Dans la seconde épître, nous trouvons que cet homme fut amené à se juger lui-même, et il fut réintégré dans la communion fraternelle. Se juger soi-même veut dire que nous devons confesser nos péchés dès que nous en prenons connaissance, connaissance de les avoir commis, et ne pas attendre que Dieu nous châtie. Jugeons-nous quand nous péchons, confessons notre péché, renonçons-y, ou alors nous courons le risque d'être châtiés par le Seigneur. Le roi continua par ces paroles, « Si la tête d'Élisée reste sur ses épaules aujourd'hui. » Le roi parlait de Dieu, mais il ne parlait pas à Dieu. L'esprit de prière, qui est l'élément déterminant de toute victoire, était absent à Samarie. Ils avaient besoin d'un réveil. Une église qui ne prie plus est une église qui ne vit plus, qui ne sait plus communiquer la vie. Une église qui ne prie plus perd son estime aux yeux de Dieu et sa puissance devant les hommes. Ce dont les chrétiens ont le plus besoin aujourd'hui, c'est de réapprendre l'art sacré et difficile de la prière. N'en avons-nous pas besoin de cet esprit de prière? La réunion de prière hebdomadaire n'est-elle pas, de toutes les autres, celle qui est la moins fréquentée? Elle est pourtant appelée le baromètre de l'Église. Cinquièmement, au chapitre 7 et au verset 1er, le prophète Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour le même prix. » Ce à quoi l'officier supérieur, conseiller du roi, répondit « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? » Il y avait à Samarie le grave péché d'incrédulité. Il croyait en Dieu, mais il ne croyait pas Dieu. Or, c'est sur la foi en ce que Dieu dit que repose le fondement du salut et de tout ce qui en découle. Dans Jean 3, il est écrit, c'est Jésus qui le dit, « Celui qui croit ton Fils a la vie éternelle, celui qui croit. » Mais tellement grave est l'incrédulité que la phrase se continue par ceci, « Celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Quand la Bible dit « Le juste vivra par la foi », cela ne s'applique pas seulement au seul jour de la conversion, mais à tous ceux qui suivent la conversion. Il est écrit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et si l'Église va être vomie de la bouche du Seigneur, c'est parce qu'elle ne lui plaît plus. Et si elle ne lui plaît plus, c'est parce qu'elle n'a pas la foi qui plaît à Dieu. Je dirais plutôt qu'elle a un genre de foi que Dieu appelle l'incrédulité. C'est Jésus qui le dit au début de l'évangile de Jean, au chapitre 2. À Jérusalem, je lis, à Jérusalem, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, donc ils étaient des croyants parce qu'ils voyaient, mais je lis encore, mais Jésus ne se fiait point à eux. Ainsi, certains croient, mais que croient-ils? Ils croient que le monde est trop indifférent pour l'évangéliser, et ils s'évitent ainsi la peine de s'intéresser à lui. Certains croient que l'ami sollicité de venir à la réunion refusera, et ils s'évitent ainsi la peine de l'inviter. Certains croient qu'un réveil n'est plus possible, afin de ne pas être eux-mêmes tirés de leur sommeil. Certains croient que c'est au Saint-Esprit de convaincre de péché, de justice, de jugement, et ils s'évitent ainsi la peine de parler aux hommes de leur péché, de la justice et du jugement. Certains croient de tout leur cœur, ne jette pas tes perles aux pourceaux, afin de ne pas s'appliquer, va dans les chemins, le long des haies, et ce que tu trouveras contraint les d'entrée. En fait, ce que certains croient serait mieux défini par de l'incrédulité que par de la foi. Certains croient tout simplement qu'au jour de leur conversion, ils n'ont contracté rien d'autre qu'une police d'assurance à long terme contre l'enfer et le jugement dernier. Ils aiment à croire que Jésus est mort pour leurs péchés et qu'ils ont en lui un avocat pour la vie présente. Il ne faut pas oublier que Jésus est présenté à l'Église apostolique comme roi, seigneur et maître, roi de leur vie, seigneur de leur volonté, maître de leur destinée. La Bible dit « Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à celui qui pour nous est mort et ressuscité ». J'ai dit l'autre soir, souvenez-vous-en, « Croire en Jésus-Christ, c'est croire ce qu'il a été, ce qu'il a fait, ce qu'il dit et ce qu'il exige. » Oui, nous avons besoin d'un réveil de foi. Je veux maintenant que vous voyez quels ont été les premiers bénéficiaires de la délivrance de Dieu et les premiers à la faire connaître. Remarquez que Dieu ne choisit aucun des officiers du roi. Nous l'avons lu, il ne croyait pas à la délivrance. Ni aucun appartenant à ce qu'on appelle aujourd'hui la « jet set ». Ni les grands du royaume, ni les sacrificateurs confient dans leur liturgie léthargique. Mais Dieu va choisir quatre lépreux. Eh oui, quatre rebuts de la société, quatre malheureux dévorés par la terrible maladie de la lèpre. La Bible nous dit qu'ils étaient à la porte de Samarie, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Car leur état voulait qu'ils soient expulsés de la société des gens bien portants et bien pensants. De leur côté, les Syriens ne les molestaient pas, tellement ils craignaient la contagion. Alors pourquoi Dieu choisit-il ces hommes? Eh bien parce que en 1 Corinthiens 1, versets 27 et 28, il est écrit, je vous lis, « Dieu se sert des choses faibles pour confondre les forts. Il se sert des choses folles pour confondre les sages. Il est même dit, il se sert de celles qui ne sont pas pour confondre celles qui sont. Et puis Dieu se sert aussi de ceux qui ne font aucun cas de leur vie. Vous trouvez ça dans le livre des Actes au chapitre 20, où l'apôtre Paul dit, « Je ne fais aucun cas de ma vie ». Ni ne la tiens pour précieuse, pourvu que j'achève ma course et le ministère que le Seigneur m'a confié. Voilà les hommes que Dieu veut, des hommes réveillés. En acte 21, dans un adieu touchant à ses amis d'Éphèse, les frères se jettent au cou de l'apôtre Paul et pleurent devant lui, le suppliant de ne pas partir. Et Paul leur répond, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être enchaîné, mais encore à mourir pour le nom du Seigneur Jésus. De même pour les lépreux, mieux valait mourir debout que de mourir de faim. Plaise à Dieu que nous mourions au combat plutôt que de mourir lâchement et honteusement d'inanition spirituelle. » Et les voilà partis. En allant de l'avant, comme ils l'ont fait, c'était pour eux leur quitte ou double, leur va-tout, leur dernière carte qu'ils abattaient sur la table. Dieu avait placé une alternative devant eux, comme devant nous. La mort à brève échéance, ou le réveil et l'abondance pour tous. La Bible dit, « Voici je place devant vous la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. » Et ces quatre lépreux raisonnèrent ainsi. On trouve ça au verset 4. « Si nous entrons dans Samarie, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'il nous faut mourir, eh bien nous mourrons. » Et ils sont partis vers leur aventure de foi, et plaise à Dieu que nous partions avec eux. Voyez-les cheminer au pied des remparts, puis descendre dans la plaine l'œil aux aguets, l'oreille tendue. À tout moment, ils peuvent entendre le « qui vive » de la sentinelle. Quel danger inconnu les attendent ? Ils ignoraient que Dieu les avait précédés, que le chemin était ouvert, et qu'ils n'avaient plus qu'à s'y engager. La délivrance était venue de l'Éternel, il ne leur restait plus rien à faire sinon à prendre possession de ce que Dieu avait préparé pour eux. Ils trouvent le camp vidé de leurs adversaires. Sans un seul coup d'épée, ils s'étaient enfuis en abandonnant toute leur richesse et leurs provisions. Et les lépreux n'ont plus eu qu'à puiser. Jamais dans leur vie ils ne firent aussi bonne chère qu'en ce jour de réveil. Leurs espérances les plus utopiques étaient dépassées, tout comme nos espoirs les plus chers seront dépassés le jour où Dieu nous visitera. Mais ces lépreux prennent tout à coup conscience qu'ils ne font pas bien. Que deviennent à Samarie, leurs frères qui sont sur le point de mourir de faim, alors qu'il n'y a qu'à sortir, puiser et prendre. Pourquoi n'irait-il pas leur dire que l'heure du réveil avait sonné? Pourquoi n'irait-il pas leur dire « C'en est assez, mes frères, affermissez les mains lassées, relevez les cœurs abattus, soutenez les genoux défaillants » On trouve ça dans Ésaïe 35 et dans Hébreux 12. L'Éternel a ouvert les écluses des cieux, pourquoi mourriez-vous de faim au sein de l'abondance? Jésus a dit, si deux se mettent d'accord pour demander une chose, elle leur sera accordée. Alors ces hommes se mettent d'accord sur une chose, et avec eux, la délivrance s'en va vers Samarie. N'y a-t-il pas ici deux personnes, ou quatre, ou plus, qui voudraient se mettre d'accord pour intercéder auprès de Dieu en faveur d'un réveil et ensuite de le communiquer à d'autres? Le Seigneur veut vous choisir, vous en particulier. En particulier pour être le bénéficiaire et le moyen de communication de ce réveil. Voulez-vous tenter l'aventure par la foi? Je ne me prends pas pour Élisée le prophète, non. Mon ambition se limite à être un de ces lépreux et à le rassembler. Je vous ai apporté ce soir un avant-goût des richesses du ciel dont Dieu m'a parlé dans le secret de l'étude de sa parole et de la communion avec lui. Il manque un deuxième, pour se mettre d'accord sur la demande à formuler. Qu'en pensez-vous, si chacun ici voulait être ce deuxième? Pensez à ce qu'il en résulterait dans nos églises et assemblées si, pour reprendre les termes de l'officier incrédule, le Seigneur faisait des fenêtres au ciel. Comme tout serait changé, que d'abondance d'actions de grâce au culte, au lieu de longs silences pesants, et quelle fraîcheur dans les accents d'adoration, quel amour renouvelé pour la lecture et l'étude de la Bible, que d'élan dans l'expression de nos cantiques, que d'assiduité dans les réunions régulières de l'Assemblée. Nombreux seraient alors ceux qui diraient avec le psalmiste « Je suis heureux quand on me dit « Montons à la maison de l'Éternel ». Que de victoires alors remportées sur le péché, que de plans élaborés en vue de l'évangélisation à court ou à long terme pour le salut des perdus. Quel renouveau dans la prière et quelle audace dans les demandes! Quelle manifestation ouverte de l'amour fraternel! Quelle reconnaissance au quotidien des bienfaits de Dieu, comme David qui s'exhortait par ces mots « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits !» Je termine, mes amis, mes frères et sœurs, je termine cette soirée par les paroles de ce cantique bien connu qui monte à Dieu comme une prière ardente. Et vous le connaissez peut-être. « Ah, donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Forme à ton service des cœurs plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante, qui tremble, rempli de ferveur, des cœurs qui ressemblent au tien, cher Sauveur. » Nous nous recueillons juste quelques instants. Seigneur, c'est à toi maintenant que nous adressons quelques paroles finales. Imprime les vérités de ta parole dans notre cœur à chacun. Seigneur, donne-nous de cesser de nous contenter de la médiocrité et de désirer un renouveau de vie, un réveil de spiritualité dans nos églises, dans mon assemblée, dans mon propre cœur, chez les miens, chez ceux que nous aimons. Seigneur, c'est vrai, nous sommes court souffle dans cette prière, mais te l'adressant à toi de tout notre cœur, le faisant ensemble, et au nom de Jésus, et par le Saint-Esprit, Seigneur, daigne nous entendre, nous bénir, et que, comme nous le disons parfois dans l'évangélisation, Seigneur, que plus rien ne soit pareil à partir de cette soirée. Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen, Seigneur.